La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le 120e numéro de la mêlée de l'info et de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale. J'ai le plaisir d'y recevoir aujourd'hui pour la première fois Rémi Douvenot, enseignant-chercheur à l'ENAC, membre du bureau d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse, et Jean-Luc Laglaize, ex-député de la Haute-Garonne, membre du bureau exécutif national du MoDem. Ils entourent un habitué de cette émission, Jean-Baptiste de Scorail, adjoint au maire de Toulouse, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du parti Les Républicains. Bienvenue à tous les trois, et en particulier aux deux nouveaux venus à la mêlée de l'info. Toulouse est la métropole de l'industrie aéronautique et du spatial. Tout le monde sait ça. Raison de plus pour parler des annonces faites par Emmanuel Macron alors qu'il visitait une usine du groupe Safran en fin de semaine dernière. Le président de la République a annoncé un plan de 300 millions d'euros par an, soit un total de 2,2 milliards de 2024 à 2030, pour soutenir la décarbonation de l'aviation et le développement de l'avion zéro émission en France. L'État va investir également 200 millions d'euros dans le développement des biocarburants innovants, avec l'objectif d'en produire 500 000 tonnes par an à l'horizon 2030. En outre, une enveloppe de 50 millions d'euros va être débloquée en faveur des acteurs émergents et des start-up pour développer les petits avions hybrides électriques ou à hydrogène. Est-ce que vous considérez aussi que l'État français doit investir massivement dans ce secteur et qu'à ce titre, le plan et les mesures annoncées par le président de la République sont adaptées et vont dans le bon sens? Je vais tout de suite donner la parole à Jean-Luc Laglaize parce qu'il se trouve que vous avez déposé l'an dernier à l'Assemblée nationale avec Sylvia Pinel un rapport d'information consacré précisément à l'avenir du secteur aéronautique en France où il était beaucoup question de décarbonation de l'aviation. On vous écoute.
Effectivement, merci de me donner la parole. Nous avons travaillé l'année dernière avec Sylvia Pinel sur l'avenir du secteur aéronautique en France, puisque en début d'année dernière, on se posait vraiment beaucoup de questions sur ce secteur qui était à la peine. Il faut s'en rappeler. Hein. Le secteur avait baissé de 60% en termes de nombre de vols, même s'il a réaugmenté depuis. En tout cas, à l'époque, on se posait des questions. Et au fur et à mesure de l'étude que l'on menait, on s'est effectivement rendu compte que le problème numéro un, c'était la question de la décarbonation. Cette décarbonation devant se faire sur plusieurs sujets, en fait. Remettons les choses en ordre. Aujourd'hui, l'aviation dans le monde ne représente que 3% des émissions de gaz à effet de serre. La problématique numéro un, c'est que ce chiffre est en augmentation. Et il va être en augmentation de plus en plus forte. Donc ça veut dire qu'il faut absolument trouver des éléments pour décarboner. Et c'est un élément qui est intéressant parce qu'il va à la fois dans le sens de l'économie, puisque moins on consomme de carburant, plus ça intéresse les compagnies aériennes. Et moins elles émettent de gaz à effet de serre. Donc c'est à la fois économiquement vertueux et écologiquement vertueux. Ça va exactement dans le même sens. Voilà. Donc nous avons publié un rapport qui est toujours accessible sur le site de l'Assemblée nationale. Et les annonces d'Emmanuel Macron, effectivement, vont tout à fait dans le sens du rapport que l'on a produit, même si elles ne reprennent pas la totalité des mesures que nous avons préconisées. Mais elles en reprennent un certain nombre, et notamment sur le SAF, Sustainable Aviation Fuel, qui veut dire donc c'est un terme international, mais qui veut dire carburant d'aviation durable, qui peut provenir de deux sources. Alors Emmanuel Macron ne parle que d'une seule source, c'est la biomasse, c'est-à-dire réutiliser des résidus, donc des résidus de construction de bois, des résidus d'huile, des résidus de tout un tas de choses, et le retransformer en biocarburant. Voilà. Il y a un deuxième volet qui est le e-fuel, dont il n'a pas encore parlé, mais sur lequel il faudra se positionner, qui est la création de carburant à partir du CO2 capté dans l'atmosphère, transformé par de l'hydrogène. Donc là, aujourd'hui, on n'en est qu'aux prémices. Déjà, le biocarburant coûte 3 à 5 fois plus cher que le kérosène, aujourd'hui, parce qu'il y en a peu en production. Le e-fuel, c'est entre 10 et 50 fois plus cher que le kérosène. Voilà. Aujourd'hui. Mais ce sont des éléments qu'il faut absolument travailler et qu'il faut travailler au niveau européen, parce que la France n'aura pas seule les moyens d'avancer, sachant que, par exemple, les États-Unis, depuis 3 ans, sont à la pointe et développent ces deux carburants en même temps.
Donc pour vous, le plan présenté par Emmanuel Macron va dans la bonne direction. Les mesures proposées sont les bonnes, si on peut dire. Il y en aura d'autres. Enfin, vous espérez qu'il y en aura d'autres et que ça ira plus loin, si j'ai bien compris.
Il y en aura d'autres, ça ira plus loin. Ce dont je suis content, c'est que d'un côté, on travaille sur le carburant durable. De notre côté, on travaille également sur les start-up qui existent en France et qui proposent déjà des avions électriques et autres. Start-up qui avaient été initialement oubliées par le premier plan. Parce que le premier plan, en fait, c'était pour Airbus et ses sous-traitants, mais ça oubliait en fait toutes les startups qui ne sont pas dans le volant d'Airbus et qui existent aussi. Par exemple, Aura Aero, qui est tout près, qui est à Francazal, ouais. N'est pas une filiale d'Airbus. Et donc, elle avait été initialement oubliée par le premier plan. J'étais intervenu pour qu'elle soit remise dans le plan, donc ça avait été fait. Et je vois qu'Emmanuel Macron a tout à fait consacré un volant à ces startups.
Et le potentiel d'innovation, ce sont aussi évidemment les startups. Alors Rémi Douvenot, je ne doute pas qu'à Europe Écologie et Les Verts, on ait regardé de près les propositions et le plan d'Emmanuel Macron pour la décarbonation de l'aviation. Vous, est-ce que vous trouvez aussi que ça va dans le bon sens et que les mesures sont adaptées et d'envergure suffisante, si je puis dire, pour obtenir le résultat que l'on cherche?
Alors d'abord, merci de m'inviter à votre émission. Et sans surprise, je vais vous répondre non. Et je vais répondre non pour plusieurs raisons. La première, elle est assez patente dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il confond tout simplement les notions de sobriété et d'efficacité. Alors il confond, c'est-à-dire qu'il va parler... En fait, il présente un plan d'efficacité de l'aviation quand il faudrait l'accompagner d'un plan de sobriété. Donc le plan de sobriété, donc la réduction du nombre de vols en France et dans le monde.
Et donc de la consommation et donc des émissions.
Et donc de la consommation et de l'émission est totalement, totalement éclipsé. Alors si l'efficacité, on va dire, était nécessaire à une réduction drastique des gaz à effet de serre et donc à remplir les conditions de des accords de Paris, on pourrait applaudir dès demain. Mais alors malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors ce n'est pas le cas, pourquoi ? Donc on a quand même, c'est des choses qui sont très documentées. Typiquement, si on veut parler de sobriété raisonnable, je crois que c'est les mots d'Emmanuel Macron, si je ne me trompe pas. On peut parler de travaux de Lee, qui font référence à l'université de Manchester, qui parle, lui, pour que l'aviation reste à réchauffement constant, pas gaz à effet de serre, réchauffement, parce qu'on a parlé des 3% de CO2, mais c'est 6% du réchauffement, parce qu'il y a d'autres effets que le CO2 qui sont dus à l'aviation. Lui parle d'une décroissance annuelle de 2% de l'aviation pour que l'aviation continue dans une décroissance compatible avec les accords de Paris à garder le même effet de réchauffement global. Donc là, on est sur un ordre de grandeur déjà qui est négatif. Hein, donc vous avez bien vu que ça, c'est absolument pas abordé dans le plan de Macron. On a d'autres rapports, Aérodécarbo, donc les rapports aussi qu'on a, les scientifiques de l'ENAC aussi. Hein, donc on a quand même tout notre savoir-faire de recherche toulousain qui nous indique, dans les deux cas, que ça va être impossible de décarboner sans une diminution du trafic. Et enfin, l'ADEME, qui devrait quand même servir de source au gouvernement.
Parce rappelez ce qu'est l'ADEME pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc l'ADEME, qui est l'Agence nationale de l'environnement, pour faire rapide, et qui a écrit des scénarios de décarbonation de l'aviation. Et dans ces scénarios, qui montrent bien que sans une décroissance, en tout cas au moins mondiale, de l'aviation, on ne va pas pouvoir remplir les accords de Paris. Donc déjà, on a ici une erreur donc, qui est double, parce que déjà la sobriété est oubliée, et ça c'est extrêmement grave dans un tel plan. Et le deuxième, c'est que le mot sobriété est prononcé à mauvais escient, et ça c'est compliqué. Alors, j'espère que c'est de l'incompétence, j'espère que c'est pas un mensonge, mais nous, de notre point de vue, c'est en tout cas une faute assez grave. Alors pourquoi parce qu'on entend souvent...
Est-ce que je peux juste rebondir sur le terme de sobriété?
Allez-y, et je repasserai la parole après à Rémi.
La sobriété, ce n'est même pas la réduction du nombre de vols. Et ce n'est pas la réduction du nombre de vols en France. C'est déjà la réduction, et si possible à zéro, de la consommation. Vous n'allez pas réduire le nombre de vols aux États-Unis avec la taille que fait ce pays. Vous n'allez pas réduire le nombre de vols en Asie du Sud-Est où il n'y a que des îles. Donc il faut juste penser un petit peu plus large que la France. Et il faut penser à comment les gens dans le monde se déplacent. Ils vont se déplacer en avion. Et donc si nous, nous voulons garder la technologie pour leur vendre des avions pour qu'ils se déplacent, nous avons intérêt à faire des avions qui sont sobres en consommation. Mais la sobriété en termes de nombre de vols, c'est une erreur. Nous n'avons pas le même dictionnaire.
Bon, alors, ouais, surtout avec...
Je vous redonne la parole après, Rémi. Oui, d'abord, Jean-Baptiste Ostrac.
Juste pour répondre et pour aller dans le sens de mon voisin, c'est clair que nos étudiants qui vont à l'étranger pour des masters, etc., ne vont pas y aller à la rame. Alors les mêmes qui vous disent qu'il faut supprimer l'avion, que ceci, que cela... Eh ben, c'est les mêmes qui prennent leurs avions pour aller faire un master aux États-Unis, un master en Chine, un master à machin, un master par-ci, par-là. Donc il y a un moment où il faut être raisonnable. Je vais rendre la parole, parce qu'après, je pense que vous allez me la redonner pour que j'explique un petit peu notre vision des choses, nous, à Toulouse, qui est fondamentale.
On est évidemment très concernés à Toulouse par les annonces d'Emmanuel Macron et par tout ce qui touche l'aéronautique en général.
C'est ça.
Alors, Rémi Douvenot, je vous laisse terminer votre développement et votre argumentation.
Oui, donc, juste sur la notion de sobriété, effectivement, un avion qui consommerait zéro, ce serait de l'efficacité parfaite. On est toujours dans l'efficacité. La sobriété, c'est bien la réduction d'emploi de quelque chose. Et l'efficacité, le fait que pour même emploi, on diminue le besoin, donc en CO2 ou en matière première, quelle qu'elle soit. Ceci étant dit, j'entends régulièrement, donc je vous remercie pour cette excellente transition, parce qu'on entend régulièrement qu'en gros, on veut empêcher tous les gens de voyager, etc., etc., etc. Alors là-dessus, il faut rester quand même raisonnable. Hein. Un tiers des gens en France, hein, je ne vais pas faire du mondial. Si on peut quand même un chiffre intéressant, c'est que dans le monde, 1% des personnes les plus riches, c'est 50% du transport aérien. Donc ça vous donne déjà, c'est-à-dire que si on réduit la voilure, hein, si on veut réduire la voilure, on sait à peu près où aller chercher. C'est pas compliqué, c'est 1% des plus riches. Et quand on va embêter 1% des plus riches, je ne pense pas qu'on va empêcher une personne de partir faire un master une fois dans sa vie à l'étranger. Donc, ceci étant dit, en France, si on zoome un peu, un tiers des Français n'ont jamais pris l'avion. Eux, je pense qu'ils ne vont pas trop être impactés si on demande de diminuer le vol. On a à peu près 50% qui le prend occasionnellement. Pareil, hein, ce n'est pas sur eux qu'on va venir taper. Et 20% seulement des Français prennent régulièrement l'avion. Et là... Là, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Alors, il y a des économistes, on a Piketty et beaucoup d'économistes inspirés par ces mesures de taxation régulière. Donc, il y a des propositions qui sont sur la table de comment faire en sorte pour que, en gros, on incite les gens à prendre de façon parcimonieuse l'avion. Parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'on a envie de mettre l'accent. D'autant plus que c'est ça que nous disent les études scientifiques. C'est que le problème n'est pas tant le nombre de personnes qui prennent l'avion. Le problème est avant tout, aujourd'hui en tout cas, le fait que certaines personnes prennent énormément l'avion. Et c'est eux qui vont être responsables de la pollution. Ici, hein, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que sur le pan sobriété, ça a été totalement occulté. Et en plus, c'est une mesure qui est juste, parce que c'est une mesure qui doit être portée par les plus riches de notre société. On parle, hein, on a le réchauffement climatique ici à Toulouse, on vit des épisodes complètement ahurissants d'orages continus, et ça c'est clairement le réchauffement climatique qui vient apporter de l'énergie à ces événements météorologiques. Et en fait, qui c'est qui va être impacté par ces choses-là? Les premiers, ça va être les paysans, ça va être la ruralité. Et au fait, on s'aperçoit qu'on a 20% de gens qui prennent très souvent l'avion, qui sont des cadres supérieurs, qui vivent en ville et qui viennent impacter la vie de la ruralité, qui après, c'est les gens qui nous nourrissent, nous, en ville, et qui vont venir après impacter notre vie à nous dans un deuxième temps.
Alors attendez, Jean-Baptiste Ossoir, juste pour qu'on comprenne bien, pour être très clair, comment on fait pour que ces 20% qui prennent très souvent l'avion, qui... a priori, seraient parmi les plus riches, le prennent moins. On tape au portefeuille, c'est ce que vous voulez dire?
Alors, il y a plusieurs ressources. Là, aujourd'hui, je n'ai pas la solution tout de suite, maintenant. Il y a plusieurs solutions qui sont à l'étude dans les universités d'économie. Hein. Donc, vous avez, en gros, soit l'introduction de quotas, soit l'introduction effectivement d'une taxation progressive sur les voyages,
sur les tarifs,
sur les tarifs en avion. Donc les deux pistes aujourd'hui sont à l'étude dans les milieux économiques.
Très bien, c'est clair.
Alors, ce qui est toujours étonnant chez les écologistes, c'est que c'est toujours de l'écologie punitive. Voilà, moi, vous le savez, que je ne suis pas macroniste, mais ce qu'a annoncé M. Macron est une très bonne nouvelle. Toulouse n'a pas attendu les annonces de M. Macron, et Jean-Luc Laglaise le disait tout à l'heure. En 2014, quand Jean-Luc Moudenc a choisi avec la métropole de racheter la base de Francazals, c'est pour faire un pôle d'excellence dans ce sens-là. Et donc on est en train effectivement d'investir énormément pour pouvoir soutenir la création à la fois de pôles hydrogène, à la fois d'avions économiques, et donc de nouveaux carburants. Et tout ça pour que la deuxième ou la première ville aéronautique du monde puisse continuer à développer. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc Laglaise, c'est que l'idée, c'est de ne pas empêcher les gens de prendre l'avion et pas empêcher les gens de construire l'avion. Nous avons encore eu hier une des plus grosses commandes d'Airbus depuis des années. Nous avons depuis 60 ans à Bordeaux Dassault qui construit des avions d'affaires qui sont extrêmement important pour la richesse de la France. Il y a eu quand même 2700 depuis 60 ans avions construits Falcon, donc ça fait à peu près 40 par an. Et ces avions-là, ils sont indispensables, comme le disait Jean-Luc, pour aller dans des pays, traverser les États-Unis, etc. Et ce n'est pas ces avions-là qui, je dirais, vont détruire... ces avions-là sont quand même là pour aider au transport économique, pour développement économique, et non pour détruire, je dirais, l'écologie. Et à partir de là, dans ces avions, effectivement, il faut les aider à faire un carburant le plus propre possible, à prendre des matériaux qui soient de telle manière qu'ils puissent permettre à faire des économies d'énergie. Et je crois que ce qu'a fait le président de la République, c'est une très bonne chose parce que ça montre, effectivement, et ça aide une ville comme Toulouse à essayer de se diversifier et en aidant aussi, en apportant des technicités peut-être à Airbus pour arriver à avoir des avions beaucoup plus propres et des avions qui n'empêchent pas de pouvoir voyager dans le monde quand on veut, etc. Et moi, ce que je reproche un peu aux écologistes, c'est qu'ils ne veulent pas du TGV, ils ne veulent pas de l'avion. Il y a un moment, ils ne veulent pas que les agriculteurs produisent d'une certaine façon ou d'une autre. Il y a un moment où on n'y comprend plus rien. Donc je crois qu'il faut être réaliste, travailler pour développer, comme c'est fait à Toulouse, travailler pour développer des nouvelles énergies pour les avions, pour du carburant. Et ce qu'a fait le président de la République, c'est une bonne annonce. Alors j'ai entendu Mme Delga, qui est quand même en phase avec Jean-Luc Moudenc par rapport à ça, dire que c'était pas assez. Oui, c'est jamais assez. Sauf que quand même, on voit qu'il y a un investissement qui est fait. Et je crois qu'il faut le soutenir, cet investissement. C'est important. Alors, les mesures, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Macron, c'est, ou un de son ministre du transport, c'est de prendre des mesurettes en disant, effectivement, on ne peut pas faire d'avion entre, je dirais, des villes où il y a, je crois, c'est 3 heures de TGV. Bon, c'est logique, mais je crois qu'on n'a pas attendu cette annonce. Et je crois que c'est déjà fait depuis longtemps. Air France ne fait plus de vols entre Paris-Nantes, entre Paris-Rennes.
Si je peux dire, les gens votent avec leurs pieds. Oui, dire, donc c'est qu'ils vont prendre le train, voilà. Parce que c'est moins cher.
Mais bon, encore faut-il que le train soit à l'heure et qu'il n'y ait pas de problème.
Ça, c'est autre chose.
Parce que ça, je crois aussi, on a un gros travail. Et à la métropole, aujourd'hui, on soutient effectivement même les lignes voies ferrées classiques, puisque... On va participer à l'association de la ligne voie ferrée Paris-Limoges-Toulouse. Et donc, c'est important de travailler sur tous les fronts et d'essayer d'apporter de manière écologique, pas punitive, de manière écologique, constructive, intelligente, des moyens pour que l'aviation, en particulier, puisse être bien plus, je dirais, vertueuse. Voilà.
Oui.
Alors, l'aviation, elle pourrait déjà être vertueuse. D'abord parce que chaque nouvelle génération d'Airbus consomme 20 à 30% de moins que la précédente. Et aujourd'hui, les A320 Néo qui sortent des chaînes de Toulouse peuvent fonctionner à 100% avec du carburant durable. L'année dernière, Airbus a fait un vol entre Toulouse et Montréal équipé de 100% de carburant durable, de biocarburant, effectivement. La seule problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de biomasse pour faire du biocarburant pour la totalité des vols.
Et il y a le coût aussi.
Et il y a le coût.
La production du biocarburant.
Il y a le coût. Au niveau européen, il y a une obligation d'incorporer du SAF, du carburant durable, à hauteur de X%. C'est une obligation européenne qui n'est pas une obligation mondiale. Donc, nous sommes en train de travailler sur un sujet qui est mondial. Arrêtons de regarder uniquement la fenêtre française et d'imposer aux Français
un certain nombre de choses punitives, parce que je pense que quand les gens se déplacent en avion, c'est pas juste pour aller prendre un pot à la Tour Eiffel et revenir à Toulouse, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Le Covid nous a appris à utiliser un certain nombre de sujets, un certain nombre d'outils, notamment la visioconférence. Il y a de moins en moins de réunions qui envoient les cadres à travers la France en avion pour faire des réunions. Il y a maintenant de plus en plus de réunions en visioconférence. Les vols qui restent sont des vols absolument utiles et nécessaires. Il convient donc de faire en sorte que l'avion devienne plus vertueux en termes économiques et qu'il devienne au niveau mondial. Parce que je vous donne juste un exemple. Un vol entre Paris et le Congo opéré par Air France coûte 50% plus cher que le même vol opéré par Turkish Airlines. Pourquoi ? Parce que les salaires sont meilleurs sur Air France ? Non, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes obligations. Air France a des obligations françaises et européennes qui obligent à mettre en place, d'abord à faire le plein à Paris et à mettre en place du carburant durable dans ses caisses, dans ses soutes, alors que Turkish Airlines dit qu'il fait un Istanbul-Paris, Paris-Istanbul, puis Istanbul, le Congo. Et même si c'est plus long en termes de...
Les tarifs sont moins, mais parce qu'ils n'ont pas les mêmes obligations.
Donc ça veut dire que toutes les obligations, il faut les travailler au niveau mondial et pas uniquement en France.
Ça, c'est comme les normes pour le bio.
Et je trouve que la reprise aussi des A380 aussi est un signe. Alors effectivement, ça consomme peut-être plus, mais quand on fait le ratio par coût passager, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus rentable. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'un certain nombre de compagnies reprennent cet avion-là de telle manière à limiter le nombre de vols. Et donc, quand on regarde ce ratio par personne, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est bon pour la planète aussi.
Et je pense qu'il faut protéger cette industrie aéronautique en France et notamment à Toulouse, parce que ne serait-ce que ça représente 85% de notre balance commerciale.
Oui, alors ça, effectivement, ça, là-dessus, tout le monde sera d'accord. Mais bon, je comprends bien, vous, Jean-Baptiste de Scorail, Jean-Luc Lavielle, le pari à faire, c'est le pari de l'innovation et de la technologie. Pour améliorer la situation, consommer moins, produire des biocarburants à moindre coût. Est-ce que vous entendez ces arguments, Rémi Devenot, ou pas du tout ? Pour vous, on fait complètement fausse route.
Alors, je les entends et je suis partiellement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas arrêter l'innovation dans l'aviation. C'est très bien de faire des gains d'efficacité, puisque c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de faire voler des avions avec des carburants de plus en plus propres, et c'est excellent. Cependant, quand parce que là, on est là, on a un premier prototype, on est très content. Vous annoncez, vous avez bien raison, qu'effectivement, il n'y a pas assez de biomasse pour faire voler les avions aujourd'hui. Je vous rappelle que l'OACI vise sur un doublement du trafic, quand même un horizon assez court. Et donc dire que grâce à la visioconférence, grâce au fait que les gens n'ont plus envie de faire un aller-retour à Paris, par exemple, dans la journée, l'aviation diminue, c'est faux. Les chiffres OACI sont quand même très clairs là-dessus. Et donc une diminution même de 30% de l'aviation, de l'efficacité de nos moteurs, ne va pas compenser. Donc ce qui veut dire que sur le calcul OACI et avec les meilleures prévisions, parce qu'on parle de 30% d'efficacité, ça veut dire que la flotte a été renouvelée. Qui va payer pour le renouvellement de la flotte ? Donc il y a encore beaucoup de questions. Et c'est pour ça, encore une fois, je reviens parce que vous ne m'avez pas contredit.
J'ai une partie des réponses.
Alors, je vous invite à la donner un peu après si vous voulez. Vous ne m'avez pas contredit sur les travaux scientifiques qui ont été menés. Quand Lee, donc de l'Université de Manchester, qui fait vraiment référence aujourd'hui dans les travaux du GIEC, quand Aérodécarbo, quand donc les chercheurs de l'ENAC, quand l'ADEME dit qu'il va falloir la décarbonation, à chaque fois, ils ont en tête les hypothèses les plus optimistes de l'industrie. Ça, il faut le garder en tête. Les plus optimistes. Ce qui veut dire qu'en réalité, on sait comment ça se passe. Les gros projets industriels prennent en général du retard. Les 30% deviennent 25%. En vérité, peut-être que le moins 2%, il peut se transformer en moins 3, il peut se transformer en moins 4. Donc certes, on peut parler de la liberté de voyager, mais est-ce qu'on peut l'opposer aussi à la liberté de polluer ? Et la liberté d'avoir un air sain, la liberté pour les agriculteurs de ne pas se prendre une grêle tous les 4 matins. Donc oui, tout ça aussi, ce n'est pas l'écologie punitive en fait. C'est de l'écologie qui vise à un mieux-être pour tout le monde, pour chacun. Et effectivement, cet effort que nous, on appelle de notre vœu pour l'aviation, on appelle le même effort dans tous les secteurs industriels.
On est tous d'accord là-dessus, je pense que...
Ah bah,
Si, on est tous d'accord, sauf qu'il faut quand même laisser du temps au temps. On va pas, je pense qu'en particulier la France là-dessus est bien en avance, et Jean-Luc le disait par rapport à d'autres pays qui, eux, je dirais le traité de Paris, ils n'ont entre guillemets rien à faire, et nous on avance. Et on avance, mais on ne doit pas avancer au détriment de la vie de nos concitoyens, de l'industrie, de notre industrie aéronautique qui est la meilleure du monde, ou... Enfin, avec les États-Unis. Donc, si vous voulez, là-dessus, on a quand même aussi un devoir de s'occuper de nos concitoyens, du fait qu'il faut qu'ils puissent se nourrir, qu'il faut qu'ils puissent travailler. Et je crois que c'est une chose importante. Maintenant, chacun son tour. Chacun doit effectivement essayer de travailler pour, je dirais, redonner un air plus respirable, etc. Mais on doit le faire à une vitesse qui peut être la nôtre. C'est sûr qu'on n'a pas une baguette magique, on ne peut pas le faire en 5 minutes. Donc il faut aussi laisser du temps au temps, on y travaille, mais je crois que ce n'est pas pour ça qu'il faut aller s'autoflageller et détruire l'économie française ou l'aéronautique française parce qu'on ne veut plus faire voler d'avions. Non, je crois qu'il y a un moment où il faut être raisonnable, on a tous pris conscience de ce qu'il fallait qu'on fasse, on est en train de le faire, on ne le fait peut-être pas à la vitesse que voudraient les écologistes, mais je crois que le principal, c'est d'avoir bien pris le problème en main et de travailler dans ce sens-là.
Je vais vous redonner la parole à Rémi Douvenot. Jean-Luc Lallez va intervenir. Bon, moi, ce que je comprends, c'est ce que dit Rémi Douvenot, c'est qu'aujourd'hui, il y a une course contre la montre, que selon lui, on ne peut pas gagner sans faire des efforts aussi sur le volume des vols chaque année.
Alors, si je vais permettre juste quelque chose de très rapide. Ce n'est pas la vitesse que voudraient les écologistes. C'est ce qu'on demande, c'est la vitesse des accords de Paris signés par la France. Pas par les écologistes.
Jean-Luc Lallez.
On comprend ce que disent les écologistes, mais ce qu'on veut leur expliquer, c'est que même si on appliquait ce qu'ils disent au niveau français, ça ne changerait rien au niveau mondial. C'est au niveau mondial qu'il faut le mettre en place. Donc on est en train déjà de le mettre au niveau européen, et l'européen est en train de travailler avec l'OACI, qui est l'organisme international qui gère tout cela, de manière à pouvoir avancer. Et il y a un certain nombre de choses, notamment l'introduction de carburants durables, est quelque chose qui est à l'ordre du jour de l'OACI. Donc ça va avancer. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Donc ce n'est pas parce qu'on ferait ça en France que ça changerait le moins du monde le climat. Ce qu'il faut également savoir, c'est que nous aurons plusieurs types d'avions. Parce que le carburant durable, ça paraît magique, mais c'est effectivement très cher et on n'arrivera peut-être pas à en produire assez. Donc le carburant durable sera probablement, dans les années qui viennent, réservé aux avions long courrier, c'est-à-dire entre les continents. Voilà. Après, il y a les avions moyen courrier, entre les pays d'un même continent, et les avions court courrier, à l'intérieur d'un même pays. Les startups qui sont en train de développer des avions entièrement électriques, je pense à Aura Aero avec 119 places, vont proposer des avions régionaux qui vont pouvoir travailler en France, relier des aéroports qui sont aujourd'hui peut-être des aérodromes, qui ne sont quasiment pas utilisés, avec 5 à 10 personnes à l'intérieur et un traitement totalement électrique. Donc ça va être pour le court courrier. Et c'est pour la France, mais ils ont une visée internationale puisqu'ils ont déjà 350 intentions de commande. Et ce n'est pas des Français. Au niveau du moyen courrier, ça sera soit de l'électrique, soit de l'hydrogène qui sera mis en place. Et donc ces deux, que ce soit l'électrique ou l'hydrogène, c'est particulièrement vertueux. Mais ça ne pourra pas être mis en place pour de longs courriers parce que ça prend trop de place. Et donc là, ça sera uniquement le carburant durable.
Alors, je vais rebondir en particulier sur Aerora, hein, qui est une boîte effectivement c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Hein, c'est électrique, ils ont aussi de l'éco-construction, donc ils ont vraiment assimilé le fait que l'industrie peut se verdir et doit se verdir. Ils sont là-dessus effectivement bien en avance par rapport à nos gros industriels. Mais là où en fait il va falloir être vigilant, et là où je n'ai pas l'impression que cette vigilance soit suffisante, c'est que le créneau que va prendre Aerora, j'ai l'impression qu'il n'existe pas aujourd'hui. Comme vous disiez, ils vont aller sur des aéroports qui sont peu ou pas utilisés aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va ajouter du transport. Donc moi, je dis oui à ce genre d'innovation si c'est pour remplacer. Si c'est pour ajouter, on ne fait qu'ajouter un problème, même si c'est un problème, comme on dit, durable. Mais en fait, c'est juste un problème en plus.
On voit c'est un problème de rajouter un avion qui n'émet pas de CO2.
Parce que le SAF qu'il va produire ne sera pas utilisé par les autres avions. Donc en fait, on vient rajouter une consommation électrique. Alors on a déjà eu des pénuries l'été dernier, ça a été compliqué à cause des centrales qui s'arrêtaient. À nouveau là, on a eu l'Ukraine, ça a été compliqué. L'été qui s'annonce est encore très compliqué à cause des pénuries d'eau.
Comment
et on nous dit qu'on va venir rajouter encore
de l'aménagement du territoire si vous interdisez à Carcassonne, à Narbonne, à Agen de se développer.
Mais les aéroports ont des slots. Ce nombre de slots peut être limité et il ne faut juste pas en ouvrir de nouveau. C'est aussi simple que ça.
On est toujours à la sobriété. Là.
Alors, non, on en est à l'interdiction.
Jean-Baptiste Score.
Moi, je voudrais. Je rejoins toujours Jean-Luc. Et on n'est pas deux contre l'écologie, mais on a une vision globale. Aller demander aux Indiens, aux Chinois, de refuser l'avion dans les territoires qu'ils ont, les vastes territoires qu'ils ont. Ces gens-là, c'est à eux aussi de travailler pour. Et je crois que notre rôle, c'est de montrer l'exemple, de faire des actions qui soient correctives pour le climat, mais qui ne soient pas punitives en France, et demander et aider aussi les pays qui, effectivement, comme la Chine, comme l'Inde, ou le Pakistan, soient aussi dans ce chemin vertueux. Et je crois que le problème, il est surtout là, parce que c'est trop facile de nous dire, la France va montrer l'exemple, mais moi, je ne suis pas là aussi pour détruire l'économie française. On est là, ce que je disais tout à l'heure, hein, pour la développer, pour essayer d'avancer, de proposer peut-être aux Chinois, grâce à nos recherches, à Franck Azal, etc., des moyens qui permettront justement d'avoir une aviation plus propre.
Bon, encore une fois, j'espère que chacun aura pu s'exprimer, que c'était clair pour ceux qui nous écoutent. Chacun de nos auditeurs pourra faire des recherches complémentaires s'il le souhaite. En tout cas, le sujet est passionnant et suscite les passions, comme vous avez pu le constater. On va en rester là pour aujourd'hui. Petite pause d'une vingtaine de secondes. On se retrouve après tous les quatre pour un second débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Suite de cette mêlée de l'info, toujours avec mes trois invités, Rémi Douvenot, Jean-Luc Laglaise et Jean-Baptiste de Scorail. Notre second sujet a lui aussi des liens avec l'environnement, si on peut dire, puisqu'il s'agit de la dissolution du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, prononcé le 21 juin, mercredi, en Conseil des ministres. Gérald Darmanin avait engagé la procédure de dissolution le 28 mars, quelques jours après les violents affrontements ayant lieu à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, où des membres de ce collectif avaient été mis en cause. Le recours à la violence n'est pas légitime en un état de droit, et c'est bien cela qui est sanctionné, a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, gouvernement qui a justifié sa décision dans le décret de dissolution en listant une série d'actions du collectif ayant entraîné des destructions matérielles et des agressions physiques contre les forces de l'ordre. L'actualité locale est venue illustrer cette décision hier soir à Toulouse, avec l'agression subie par Jean-Luc Moudenc et plusieurs élus de sa majorité municipale. Nous allons y revenir forcément, mais tout d'abord, est-ce que vous jugez que cette dissolution est justifiée, était inévitable, compte tenu des faits rapportés par le gouvernement? Ou alors, y voyez-vous une manœuvre visant à bâillonner un mouvement qui dérange et qui mène un combat légitime, comme l'estime un de ses porte-paroles? Mais en parlant de porte-parole, je vais donner, je pense, la parole à la Défense tout de suite. Rémi Douvenot, vous, quelle est votre position par rapport à cette dissolution?
Alors, je vais quand même commencer en disant qu'à Europe Écologie, on condamne fermement ce qui s'est passé hier soir à Toulouse.
C'est une bonne chose.
Et
merci,
voilà, donc nous sommes un mouvement non violent et voilà, on tenait à le préciser. Donc là, sur ce qui s'est passé là, avec les soulèvements de la Terre, il y a eu quelque chose quand même d'assez grave qui s'est passé dans notre démocratie, je pense. C'est le fait que les cellules terroristes ont été activées pour aller chercher des militants écologistes. On parle donc d'éco-terrorisme, c'est un peu le...
On parlait des cellules anti-terroristes.
Oui, mais du coup, ce qui devient le mot qu'on entend derrière, hein, c'est l'éco-terrorisme. Je rappelle que le terrorisme, c'est l'action directe, qui mettait des balles dans la tête de PDG. C'est Breivik qui a massacré des jeunes socialistes, des dizaines de morts. C'est Mohamed Merah qui vient à Toulouse tuer des enfants, pareil, de sang-froid. C'est Al-Qaïda qui fait des milliers de morts... à New York. C'est aussi les orpailleurs d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, qui viennent tuer, par, encore une fois, de sang-froid des journalistes et des militants écologistes. Ça, c'est du terrorisme. Et moi, voir des militants écologistes, en colère certes, mais des militants écologistes, assimilés à ce genre d'actes terrifiants, moi, ça me fait extrêmement mal. Ça me fait mal, ça me met en colère. Et cette colère qui monte, eh bien, quand vous avez affaire à des mouvements non violents, habitués, on va dire, au dialogue, parce que quand même, ça fait quand même des années et des années qu'on répète des vérités sur le réchauffement climatique. Hein. Aujourd'hui, vous êtes tous autour de la table d'accord, tout le monde était d'accord sur l'écologie. C'était pas le cas il y a 10 ans. C'était encore moins le cas il y a 20 ans. Et il y a 30 ans, on était des rigolos. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde.
Là, je ne peux pas vous dire ça parce que vous avez quand même, sur l'écologie, on va déborder un peu, mais vous savez, nos paysans, moi je suis fils d'agriculteur, on a toujours parlé d'écologie. Alors, effectivement, ce n'était pas la même que celle de maintenant, mais les meilleurs écologistes, c'était les paysans. Et ce mot d'écologiste, on en entend parler. Les premiers, c'était, je crois qu'il s'appelait Dumont.
René Dumont, qui avait été candidat à
l'élection. Donc, on en a toujours parlé. Donc, là-dessus, il faut arrêter de dire que c'est quelque chose qui ressort que maintenant.
Mais bon. D'accord. Donc,
reprenez votre développement.
Je vais continuer. Donc, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout la désescalade. La désescalade, parce qu'on est dans un milieu, un contexte extrêmement tendu, on le voit. Et dans ce contexte, aller taxer des militants en colère, hein, de terroristes, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Donc là, pour nous, l'idée maintenant, c'est la désescalade. La désescalade, elle doit être dans les actes, elle doit être aussi dans les mots. C'est extrêmement important. C'est pour ça, encore une fois, que moi, je condamne ce qui s'est passé hier à Toulouse. C'est pour ça que je dis maintenant, il faut se poser un petit peu, réfléchir à quels mots on utilise. Quand on parle un petit peu de tous ces mouvements, je rappelle qu'il y a des mouvements comme le soulèvement de la Terre, c'est des associations comme ATTAC.
Je rappelle, c'est un collectif.
C'est un collectif, hein, donc ATTAC, les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne. Donc, il y a des paysans hein, avec nous. Effectivement, les premiers écolos, ils sont là, ils sont la Confédération Paysanne. Donc voilà, taxer de terroristes ces gens-là me paraît totalement ahurissant.
Donc pour vous, la dissolution, c'est quelque chose qui est injustifié de l'ensemble, enfin, du collectif. Pour vous, c'est complètement injustifié.
C'est complètement injustifié. D'ailleurs, on soutient l'action en justice pour faire annuler cette décision.
Alors,
je vous laisse. Oui,
pour moi, c'est.
Bah, d'autant
c'est,
plus que, bon, voilà, par rapport à ce qui s'est passé hier soir.
C'est ça. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'il y ait une dissolution de ce groupe, que je dirais terroriste, parce que ce groupe-là, on l'a montré hier, il aurait pu tuer un élu. Hein, c'était des canettes, c'était des bouteilles en verre qui étaient lancées sur la tête de nos élus. C'est inacceptable. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu au moins une trentaine de messages de toute la France, de gens qui disaient « on ne peut pas tolérer ça ». Et je vous remercie d'avoir condamné ça de manière extrêmement ferme, comme l'a fait le président du conseil départemental, la présidente du conseil régional, et c'est une bonne chose. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ces choses-là, il y a des règles républicaines, il faut les respecter. Et depuis quelques années, et j'en veux un peu là-dessus à notre président de la République, je vais pas parler du fond de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, s'il fallait ou s'il ne fallait pas, mais l'ensemble de la région avait voté pour. Il y avait eu un référendum, je crois, en Pyrénées-Atlantiques, disant qu'il fallait le faire. Donc l'exemple qui a été donné de revenir en arrière sur ce modèle-là a été catastrophique. Et ça a entraîné un certain nombre de choses. Et on ne peut pas, dans un combat, quel qu'il soit, prendre et être violent. Et ce que l'on a vu en Vendée, pas en Vendée, dans les Deux-Sèvres, est inacceptable. Ce que l'on commence à voir dans certains cas aussi pour l'autoroute Castres-Toulouse est inacceptable. À partir du moment où il y a eu un choix qui a été fait, un certain nombre d'élus et de gens de la population qui se disent « on a besoin de ça » et qu'il y a un accord global. Respectons cet accord. On peut aller effectivement dire qu'on est contre, mais de manière, je dirais, loyal, sans heurts. Et là, on a passé un cap. Ce n'est plus acceptable. Et c'est la même chose aussi quand on peut le voir avec des groupuscules et ce qui s'est passé pour le maire de Saint-Brévin, je crois. Voilà. Donc, c'est intolérable. Et là-dessus, il faut vraiment que les Français se reprennent parce que la violence, elle n'amènera rien. Et il y a un tel climat en ce moment que la seule chose pour se faire entendre, c'est de casser ou de lancer des bouteilles sur des élus ou de taper sur ou blesser, etc. Et hier, ils auraient pu tuer. Donc il faut quand même qu'on soit vigilant par rapport à ça et on doit être intraitable.
Alors, reste à savoir qui étaient les gens en question qui ont agressé.
On le verra dans quel temps parce que je crois qu'ils ont...
Il y a une enquête, il y aura une enquête de toute façon. Jean-Luc Laglaize, et après je vous redonne la parole à Rémi Doubleau.
Moi, je pars du principe que la France est une démocratie et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont intangibles et qui sont dans la Constitution, qui est notamment le droit de manifester. Quand on a des convictions chevillées au corps, on a le droit de les exprimer en France. On a les droits de manifester. On a le droit d'association. On a le droit d'aller voir ses représentants, ses élus. Ses maires et autres, pour essayer de faire passer ses idées. À partir du moment où on considère que les idées que l'on porte sont les idées qui doivent absolument être reprises par notre pays et qu'il n'y a pas d'autres idées à mettre en place, on est en train de rentrer dans une dictature. Donc ça veut dire que la violence n'a pas aujourd'hui de place en France. La violence sur les biens et les personnes n'a pas de place en France. Le collectif Soulèvement de la Terre est allé trop loin, beaucoup trop loin. Je l'invite à essayer d'imaginer la même chose en Chine ou en Russie.
Oui,
ça n'aurait pas été juste une dissolution. Hein. Il serait dans les goulags. Donc, ce n'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux dire, c'est que nous avons en France les moyens de nous exprimer dans la rue, dans les journaux, auprès de nos élus. Et ensuite, on a une petite chose qui s'appelle le bulletin de vote, si on considère qu'on est suffisamment nombreux à partager la même idée pour envoyer à l'Assemblée nationale, au Sénat et à la présidence, quelqu'un qui porte exactement les mêmes idées que nous. Donc je considère qu'aujourd'hui, la dissolution du soulèvement de la Terre était effectivement inévitable, de manière à pouvoir repartir sur des bases saines et mettre en place la désescalade dont parle notre ami d'Europe Écologie Les Verts.
Alors, qu'est-ce que vous répondez, Rémi Douvenot, après ces deux interventions ?
Alors, je vais être d'accord avec M. de Scorail quand il en veut à Emmanuel Macron, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Quand on est à la tête d'un État qui se fait remettre à l'ordre par l'ONU, hein. L'ONU dit « il faut revoir vos méthodes policières ». Et qu'il n'y a absolument rien qui est fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune remise en question des méthodes policières. Quand on a des millions de manifestants non violents, je parle des réformes des retraites, qui descendent plusieurs fois dans la rue, plusieurs fois, et qui, en fait, n'ont absolument pas pu faire bouger d'un iota la loi, eux n'ont pas été entendus. Donc là, on est vraiment sur des actions totalement non violentes. Je vous rappelle aussi que l'État a été condamné par deux fois pour non-action climatique. Ça n'a pas été encore résolu, c'est-à-dire que l'État, il n'y a aucun juge qui a aujourd'hui signifié à l'État que ça y est, il avait enfin pris les mesures nécessaires pour être sur les rails des accords qu'il a signés lui-même, les accords de Paris, il les a plus que signés, hein, il les a même écrits. Donc tout ça, c'est justement une somme d'actions totalement non violentes. À cela, moi je comprends l'agacement des gens, c'est-à-dire que quand on commence à avoir, on peut parler des méga-bassines par exemple, mais ça va marcher avec l'aéroport à 69, etc., des destructions d'espaces naturels. On a parlé un petit peu du GIEC, l'équivalent, l'IPBES, qui parle de la disparition de la biodiversité, qui est vraiment terrifiante, hein, c'est quelque chose de terrifiant. Les insectes, c'est plus de la moitié qu'on a perdu largement. Les oiseaux, c'est déjà 30%, mais pour certains, en général, les oiseaux des champs, c'est 70%. Donc c'est vraiment, on est en train de perdre la vie, d'accord ? Et ça, encore une fois, c'est scientifique. Là, je ne suis pas en train de vous donner mon opinion, je ne suis pas en train d'essayer de vous convertir à je ne sais quoi. Eh bien, effectivement, on entre dans des choses un peu plus concrètes, c'est-à-dire que les gens en ont marre parce que tous les leviers d'action légaux, les manifestations, les actions juridiques nous amènent à des impasses. Donc nous, on continue à Europe Écologie de porter un combat politique. Un combat politique parce qu'on pense encore que c'est possible.
Revenez sur le sujet de la...
Sauf que derrière, nous, on se heurte à une communication de lobby, à une communication qui n'est absolument pas entravée. C'est-à-dire, effectivement, quand Emmanuel Macron utilise sobriété pour parler de la vente d'avions, on est dans un délire total. Et nous, notre message écologique aura beaucoup plus de mal à passer parce qu'on se fait voler les mots par un discours de lobbyiste. Donc ici, moi, ce que je dis, hein, c'est que notre combat, malheureusement, amène à des violences parce que beaucoup de gens ont l'impression de ne plus avoir d'autres façons d'action.
Alors, c'est la conclusion que j'attendais parce que tout ce que vous décrivez là, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas lorsque nous menons des actions non violentes, donc il ne nous reste plus finalement que la radicalité, c'est ce que vous êtes en train de dire ?
Alors moi non. Mais disons que...
En train de dire, pas vous personnellement, voilà. Bien sûr, mais la conclusion, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas, il y a bien un moment où il faut passer au cran au-dessus. Et le cran au-dessus, c'est malheureusement des actions qui pourraient être violentes.
Non, le cran au-dessus, c'est pas ça. Le cran au-dessus, c'est de prendre son bulletin de vote et d'aller voter. Le problème, c'est qu'il y a une grosse partie des gens qui vont manifester, qui ne sont pas d'accord avec M. Macron, qui n'ont pas été votés pour l'élection présidentielle. Moi, je n'ai pas voté M. Macron. Donc... Mais je n'ai pas voté Marine Le Pen non plus, donc au deuxième tour. Mais si vous voulez, il est hors de question qu'on laisse à des gens la violence, alors qu'on a le bulletin de vote, on est quand même une grande démocratie. Et je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit monsieur. Moi, je ne peux pas tolérer qu'on dise que nos forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police, soient des méthodes policières d'un autre temps. Ce n'est pas vrai. Il faut voir aussi comment ils sont traités. Hein, à Sainte-Soline, les camions de gendarmerie qui ont été brûlés, c'est inacceptable. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des bandes d'extrême gauche, parce que c'est le cas, et qui sont dans ces manifs, qui sont là pour tout casser. Et quand vous dites que c'est des manifs pacifistes, oui, la grosse partie de la manif est pacifiste. Mais on est en train de faire le décompte du coût que ça coûte à des villes comme Toulouse ou Paris en casse. Mais c'est énorme. Et on ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a un moment aussi, il faut utiliser les moyens démocratiques. Et il y en a en France pour le faire. La violence n'a jamais été le résultat la solution.
Oui, alors la question que pose Rémi Doudou est intéressante et il faut qu'on la pose aussi. C'est la question de la radicalité et de la désobéissance civile, pour reprendre une expression qui est un peu galvaudée, mais bon.
C'est un cache-sexe.
Elle dit bien ce qu'elle veut dire.
C'est un cache-sexe, la désobéissance civile.
Mais alors, quelle limite on lui pose à cette désobéissance civile et ce discours radical, voire cette action radicale ?
Mais la limite, c'est la violence aux biens et aux personnes. C'est le respect d'un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Qui est organisé.
Mais comment on intervient ? C'est ça ma question.
Comment on intervient ? Déjà, il y a la sensibilisation. Notre ami d'Europe Écologie Les Verts nous disait qu'il y a 40 ans, personne n'était sensibilisé au discours écologique et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le sont. Ben oui, mais parce qu'ils ont fait aussi un travail d'éducation, de communication, qui fait qu'effectivement, on partage beaucoup de choses. Mais on n'est pas obligatoirement d'accord sur les moyens de le mettre en œuvre. Et ce n'est pas parce qu'ils travaillent depuis 40 ans sur le sujet qu'ils détiennent la vérité sur la manière de le mettre en œuvre. Nous, on dit, attention, cette mise en œuvre ne peut se faire qu'au niveau mondial. Faire des choses au niveau uniquement local, ça ne sert strictement à rien. Et eux, ils sont dans leur système, et leur système, ils sont tellement engagés que, quelque part, ils autogénèrent cette violence. Mais cette violence, il faut qu'ils la gèrent. Il faut qu'eux-mêmes se mettent en position de désescalade.
Alors, est-ce que vous répondez, là, cette fois-ci,
cette
question de la radicalité ?
Je viens d'apprendre, et j'en suis un peu abasourdi, que l'action locale ne servait à rien. Alors... je vous invite à regarder un petit peu ce qui se fait dans toutes les réserves naturelles. C'est là qu'on a encore des réserves de biodiversité et heureusement qu'elles existent encore. Et c'est un peu à cause de ça qu'on va être opposé à des grands projets comme les aéroports, qu'on va être contre les autoroutes, parce que c'est la destruction des rares milieux encore naturels en France. C'est les zones humides qui disparaissent. Je vous rappelle qu'une zone humide capte plus de CO2 que la forêt amazonienne, ça faut le garder en tête. Donc non, l'action locale a aussi un sens. L'écologie doit être appliquée à tous les niveaux. Alors effectivement, au niveau mondial, c'est plus dur, mais si on ne fait rien au niveau local, on ne fera jamais rien du tout. Alors, ceci étant dit, sur la dissolution, j'aimerais revenir quand même sur un point, parce que les dissolutions, c'est pas la première fois qu'il y a une dissolution d'un mouvement. On a eu des dissolutions de mouvements d'extrême droite en particulier.
Oui, génération identitaire.
Il y a 3 mois, oui.
Voilà. Génération identitaire, c'est encore plus ancien.
Qui se passe sur ces dissolutions-là ? C'est que ces mouvements portent un message qui lui-même est hors la loi. C'est un message d'appel à la haine, raciale en général. Donc, le message lui-même du mouvement est illégal. Ici, on parle d'un mouvement, encore une fois, porté par des associations d'utilité publique depuis des années, voire des dizaines d'années pour certaines, qui portent en gros le message « Juste, faites ce que vous avez signé ». C'est exactement les messages oui, qu'elle porte.
Sauf que hier c'était plutôt de la haine.
C'est pas l'action.
C'était vraiment de la haine.
C'est pas l'action.
Vous parlez d'extrême droite, mais hier
contre les actions, les actes.
Je veux dire contre les élus concernés, c'était vraiment de la haine.
Ça s'appelle fausse barbe.
Voilà, c'est plutôt une fausse barbe. Oui, je suis d'accord.
D'accord. Alors revenons. Ça veut dire que parce qu'il y a des gens violents dans une manifestation ou dans un mouvement, il faudrait dissoudre le mouvement. Il va falloir dans ce cas-là. C'est dangereux. Est-ce que dès que la FNSEA verse du purin devant une mairie, on la dissout?
Des soulèvements de la terre cautionne tous les actes et revendique ces actes de violence. Les revendique. Le fait qu'ils ont déchiré l'unité de production de Muguet, qui était en train d'essayer justement de réfléchir avec comment utiliser moins d'eau et autres, ils le revendiquent. Donc la violence est revendiquée. Donc c'est cette revendication-là qui est inacceptable en démocratie.
Vous parlez de la FNSEA, mais moi, j'ai des familles proches qui sont syndicalistes et qui ont été... par leur action, pénalement sanctionnée. Et là-dessus, il faut absolument qu'on arrive à faire la même chose avec ces... Et je crois que, bon, il y a un problème en France aussi là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que, quand on fait des choses qui sont mauvaises, eh bien, elles soient sanctionnées. Et je crois que le problème, il est aussi là, c'est qu'il y a un moment, il faut être très ferme avec une sanction. Et l'acte qu'il y a eu hier... C'est pas tous les militants qui sont comme ça. C'est une poignée, mais une poignée qu'on doit éradiquer parce qu'on ne peut pas continuer à travailler comme ça avec des gens qui sont violents, qui ont la haine de l'autre. Alors vous parlez de la haine de l'extrême droite, mais là c'est pareil, c'est la même. Et à qui ça va profiter? Tout le monde le sait. Il n'y en a qu'une qui va s'en sortir. C'est Marine Le Pen. Donc est-ce que c'est la solution? Non.
Alors, je vais rebondir sur les violences policières, parce que c'est quelque chose, tout à l'heure, j'ai oublié de revenir sur ce que vous disiez avec les violences policières. Alors, moi, je suis le premier à être admiratif, vraiment admiratif, du peu de blessés qu'on a en manifestation. Ça demande, pour les policiers, un sang-froid incroyable.
Et surtout,
parce que
ils sont préparés à ça.
Eux-mêmes sont agressés, quelque chose d'assez
fou. C'est leur entraînement tous les jours. On leur apprend à garder leur...
Je sais.
Ça fait partie du métier, effectivement.
Je sais, merci, mon frère est policier. Bon. Ce que l'ONU nous dit, c'est pas vos policiers sont violents, c'est vos systèmes, c'est les préfets qui sont montrés du doigt, c'est l'État, encore une fois, c'est les méthodes qu'on va dire à nos policiers d'appliquer. C'est ça qui est montré du doigt. C'est pas la formation, c'est pas le sang-froid de nos policiers qui est montré du doigt. Et encore une fois, moi, je refuse de dire que les policiers sont violents. C'est un non-sens et c'est absolument pas le sens de mon discours. Donc là-dessus, j'aimerais bien qu'on soit d'accord. La deuxième chose qui est la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Hein. On est radio présent. Je crois que Jésus, il peut très facilement être mis dans ce mouvement.
Je n'attendais pas à ce que son nom vienne dans la conversation, mais voilà, merci.
Mais pourquoi pas. Bien sûr, Gandhi,
etc.
Je crois
qu'il était non-violent, quand même.
On a des mouvements non-violents. Et encore une fois, moi, je ne suis pas là en tant que porte-parole des soulèvements de la Terre. Je suis membre d'Europe Écologie.
Et
Europe Écologie est un mouvement non-violent. Par-dessus, on a quand même eu, par exemple, José Bové, qui détruit un McDo, alors qu'il le démonte. Hein, c'était de la violence raisonnée, on pourrait dire. Mais sauf que si, en face, aujourd'hui, voilà, je vous vois sourire, alors c'est pas très radiophonique, mais je vois sourire quand j'évoque ce démontage de McDo. Aujourd'hui, on a un problème de malbouffe.
J'ai toujours souri au mot de démontage, parce que pour moi, c'est une destruction.
D'accord.
Et donc, c'est illégal.
C'est illégal, et il a été puni pour cela, etc. Mais ça a apporté, en tout cas, les fruits. Et aujourd'hui, on se retrouve à lutter contre la malbouffe parce qu'on a laissé passer ce genre de choses, alors, comme les McDo.
Une chose tout de même, parce qu'il y a une question qui a été posée, notamment par Jean-Baptiste de Scorail, le bulletin de vote. Comment se fait-il, si vos idées sont les bonnes, qu'elles n'aient pas plus d'impact dans la population, que vous ne recueillez pas plus de voix? Je rappelle que Yannick Jadot a fait moins de 5% à la présidentielle. Pourquoi vous n'êtes pas entendu?
Alors, il y a une raison qui est assez simple, qui est la question des lobbies. Donc, les SUV, quand les SUV sont sortis sur le marché, c'était 4 heures quotidiennes de pub sur les grandes chaînes. 4 heures quotidiennes de pub sur les grandes chaînes. Essayez de compter le nombre d'heures de pub que vous avez dans une journée et vous verrez à quel point on est dans du matraquage. Donc là, si vous voulez, on peut faire une discussion, on va arriver sur des pans quasiment philosophiques, mais... Nous, on a un discours scientifique, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et encore une fois, j'ai vu personne à table, sur cette table-là, venir contredire les études que j'ai pu citer. Et nous, ce qu'on se heurte, c'est que cette pensée scientifique, peut-être un peu plus complexe que du slogan, va venir se heurter à des messages lobbyistes extrêmement forts, extrêmement répétés.
Qui sera de désinformation, selon vous.
Qui sera de la désinformation, effectivement. Quand on dit qu'il faut acheter un EV, d'un point de vue environnemental, c'est un non-sens. C'est un non-sens, oui, c'est pas moi qui le dis.
D'aller dégonfler les pneus des SUV, c'est aussi un signe de violence. Et c'est idiot. Hein, vous avez quand même des gens qui ont acheté effectivement un SUV, qui en ont peut-être besoin pour leur travail, pour leur famille, etc. Mais qui le matin ont besoin d'aller travailler, qui se retrouvent avec un SUV, les pneus dégonflés. Est-ce que vous trouvez que c'est une solution? Non, ce n'est pas une solution. Les gens qui ont envie d'acheter un SUV, ils ont le droit d'acheter un SUV. C'est tout.
Sauf qu'en fait, les gens n'avaient pas besoin d'un SUV, ils avaient besoin d'un véhicule.
Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est vous qui le décidez.
Non, c'est pas moi.
Arrêtez d'imposer aux gens leurs besoins.
Mais oui, chacun
fait. Laissez-les vivre.
Mais c'est la pub qui impose les besoins, c'est pas moi. Mais c'est ça en fait que vous ne comprenez pas. C'est qu'à bouffer 4 heures de SUV par jour, on pense que c'est un besoin. Et encore une fois, alors là, c'est ça que sert la pub. Et c'est pour ça qu'il y a des milliards d'euros qui sont dépensés en publicité, en lobbying au niveau européen. C'est justement pour déformer cette réalité scientifique.
La différence qu'il y a entre nous, c'est que moi, je m'occupe des cœurs de quartier. Dans le cœur de quartier, on me dit, monsieur Le Scorret, vous êtes contre la voiture. Non, je ne suis pas contre la voiture, mais je suis contre le fait qu'on laisse une place maintenant, à notre époque, aussi importante qu'il y a 40 ans, à la voiture. Oui, là, je suis contre. Mais je n'empêche pas les gens qui ont envie d'avoir deux voitures, d'avoir deux voitures. C'est leur problème. Il y a un moment où, si vous voulez, laissons vivre les gens comme ils ont envie de vivre. Qu'on leur dise, attention, il faut limiter la voiture. Oui, c'est notre devoir d'élu de dire que maintenant, la ville de Toulouse, il y aura, au lieu d'avoir deux voitures par personne, il n'y en aura certainement plus qu'une.
Vous leur laissez le choix ou vous ne leur laissez pas le choix du coup?
On leur laisse le choix, mais d'un autre côté aussi, on fait ce qu'il faut pour que les choses soient limitées. Et on le voit à Saint-Michel, on réduit le nombre de places de stationnement. Vous savez, on doit avoir cette liberté. Cette liberté, elle est fondamentale. Donc les gens ont le choix, mais si, ils ont le choix aussi, et notre devoir, c'est de leur indiquer qu'effectivement, dans une ville comme Toulouse, il y aura moins de voitures. Mais d'aller dégonfler les pneus parce que vous n'êtes pas d'accord, parce qu'ils ont des SUV, je trouve ça, entre guillemets, alors vous m'excuserez, mais un mot, je trouve ça minable.
Mais alors qui c'est qui va dégonfler les pneus? Parce que je ne sais pas pourquoi vous me dites ça.
Non, mais je vous dis parce que hier ou avant-hier, il y a eu encore une série de voitures qui ont été dégonflées. Mais c'est aussi.
C'est régulier, c'est régulier.
Voilà, et c'est aussi. C'est aussi dangereux que de lancer une canette. C'est une autre forme, mais laissons vivre les gens et aidons-les à réfléchir sur, effectivement, comme vous l'avez dit, avec vos chiffres sur l'avenir. Mais il y a un moment où il faut quand même...
On est obligé de terminer ce 120e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci infiniment à vous trois d'en avoir été les invités, avec des remerciements spéciaux à Rémi Douvenot et Jean-Luc Laglaise, dont c'était la première à la Mêlée de l'Info. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je remercie aussi Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et je remercie enfin nos auditeurs pour leur fidélité à notre écoute. À jeudi prochain pour la dernière de la saison. Excellent week-end à tous.